Au terme d'une réunion en visioconférence au commissariat qui aura duré un peu moins de 2 heures, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce pour le 28 juin la date des élections provinciales. Le corps électoral sera ouvert aux natifs et aux conjoints. À la veille de la date officielle, les communes de Païta, d'Umbéa et du Mont d'Or commémorent la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était le 8 mai 1945. Les acteurs du monde économique inquiets en ce début d'année 2026. Une situation qui pousse les représentants des organisations patronales à faire 5 propositions urgentes pour éviter l'effondrement des entreprises. Un rallye citoyen organisé à la pointe Chalex de Nouméa. Plusieurs classes défense venues de toute la Calédonie ont pu découvrir aujourd'hui tous les métiers qui composent la marine nationale. Vous n'êtes pas seul face à la maladie. Le centre d'accueil de jour de la Croix-Rouge à Magenta organisait ce matin des portes ouvertes pour faire découvrir son dispositif d'aide aux malades d'Alzheimer et aux accompagnants. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les élections provinciales auront lieu le 28 juin. La date a été confirmée ce matin par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui avait invité les partenaires calédoniens à une réunion multilatérale à 7h15 au Haut-Commissariat. Il était 22h15 à Paris. Le Premier ministre propose également une ouverture du corps électoral aux natifs et aux conjoints. Elisabeth Noir.
La réunion multilatérale aura duré moins de 2 heures et personne n'en est sorti satisfait. Seule la fixation de la date des élections provinciales fait l'unanimité. On sait maintenant que le scrutin, qui a été reporté à 3 reprises, se déroulera le dernier dimanche du mois de juin et la campagne électorale va pouvoir s'ouvrir. Mais la proposition d'ouverture du corps électoral aux natifs et aux conjoints, sans précision de durée pour le moment, ne plaît à personne. Les loyalistes prennent acte de cette proposition d'ouverture, mais ils estiment qu'elle est largement insuffisante, comme l'a déclaré Sonia Beckès à l'issue de la réunion.
Donc l'État a déjà indiqué que les élections seraient le 28 juin. C'est important d'avoir cette date. Ça permet à chacun de s'organiser. Ensuite, l'État propose que le corps électoral soit ouvert aux natifs plus aux conjoints. C'est évidemment insuffisant pour nous puisque ce n'est pas le dégel qu'on attendait. On prend acte de cette proposition dont on espère qu'elle ira au bout et qu'elle permettra au moins ce petit cran d'ouverture du corps électoral, même s'il est évidemment largement insuffisant. En fait, l'État a fait ses propositions, chacun a réaffirmé ses positions. Maintenant, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, à mettre cette loi organique dans le circuit pour que les élections puissent se tenir avec ce corps électoral, celui qui a été défini ce matin, le 28 juin prochain.
Tous les groupes politiques participaient à cette réunion en présentiel ou en distanciel, mais les divergences demeurent évidemment entre les partisans de la France et le FLNKS.
On est fondamentalement en désaccord puisque le FLNKS continue de dire que rien ne peut bouger sans accord global de décolonisation, modalités d'autodétermination, etc. Ce sur quoi on est évidemment en désaccord, mais on se l'est dit suffisamment souvent pour savoir ce que chacun pense.
Le FLNKS de son côté est satisfait lui aussi de la fixation de la date des provinciales, mais il refuse l'ouverture même ajustée du corps électoral. Le député Emmanuel Tchebaou, qui conduisait la délégation, estime que la proposition de Sébastien Lecornu ne prend pas en compte la trajectoire de décolonisation.
Il en sort, c'est déjà qu'on a acté la fin de la séquence des discussions bilatérales et c'était l'objet de la plénière d'aujourd'hui. Satisfait en partie puisque les élections vont se tenir en temps et en heure comme convenu. Après, nous on a souhaité s'avancer, enfin, c'est ce qu'on dit depuis juillet dernier à la sortie de Bougival. On était prêt à s'avancer sur un accord politique dans le même cadre qui a été celui avancé depuis Matignon-Oudinot et de l'accord de Nouméa. Là, ce qui nous est posé sur la table, les scénarios qui ont été formulés, pour nous, ils ne prennent pas en compte la trajectoire de décolonisation.
Et Emmanuel Tchebaou rappelle que le FLNKS est opposé à toute ouverture du corps électoral en dehors d'un accord global.
L'intérêt pour nous, c'est de déjà conforter le débat démocratique par la tenue des élections provinciales. Il y a eu des éléments qui ont été évoqués sur la position des uns et des autres sur une ouverture ajustée du corps électoral. Nous, on a rappelé les engagements du FLNKS sur son opposition à toute ouverture du corps électoral en dehors d'un accord global. Quand bien même nous étions d'accord en 2017 sur une ouverture aux natifs, elle s'inscrivait dans la perspective d'une consultation référendaire en 2018. La position du FLNKS, c'est celle-là, c'est que nous on a dit s'il n'y a pas de perspective derrière d'accrocher un accord politique conformément à nos engagements depuis juillet dernier, ben nous on ne pourra pas se prononcer au-delà de ça, mais on est toujours ouvert à la discussion.
Peu après la réunion, le FLNKS a communiqué sur sa page Facebook pour dénoncer avec fermeté la volonté de l'État de passer en force sur l'ouverture du corps électoral avec l'inscription des natifs et des conjoints. Il rappelle que le corps électoral n'est pas négociable et qu'il ne laissera pas l'État remettre en cause les engagements historiques pris envers le peuple kanak. Une position qu'il a réaffirmée dans un communiqué publié cet après-midi dans lequel il constate que l'État assume désormais sa volonté d'engager une ouverture unilatérale du corps électoral citoyen en dehors de tout consensus. Pour le FLNKS, cette annonce est inacceptable. Elle remet en cause les engagements historiques et fait peser un risque d'instabilité politique dans le pays et dans la région. Et dans ce communiqué, le FLNKS affirme vouloir poursuivre le dialogue pour amener le pays à sa pleine souveraineté. Il ajoute que la mobilisation doit être électorale avant tout.
Les élections provinciales auront lieu le 28 juin et le Premier ministre propose une ouverture du corps électoral aux natifs et aux conjoints. Alors Elisabeth, combien de personnes sont concernées par cette ouverture et les délais sont-ils tenables pour l'adoption d'une loi organique ?
Ce sont au moins les deux questions qui se posent aujourd'hui. Concernant le nombre de personnes qui pourront être inscrites sur la liste électorale provinciale, c'est compliqué. Selon les chiffres rendus publics il y a quelques semaines par le Haut-Commissariat, il y a 37 592 exclus du corps électoral, dont 10 575 natifs. Parmi eux, 4145 sont de statut coutumier et 6430 sont de droit commun. Ce sont donc ces 10 575 personnes qui devraient être réintégrées dans la liste électorale spéciale en tant que natifs. Concernant les conjoints, en revanche, on n'en a aucune idée. Parce qu'en l'état actuel, on ne sait pas ce que recouvre cette notion, ni quelle durée sera retenue pour estimer qu'un conjoint peut ou non voter. Ce sera à la loi organique de définir ces critères. On ne sait pas non plus selon quelle procédure ils pourront s'inscrire sur la liste électorale spéciale.
Et concernant la loi organique, est-ce qu'il reste suffisamment de temps pour l'adopter ?
Une chose est sûre, les délais sont extrêmement courts. Mais d'après nos informations, le Sénat serait prêt à se saisir de cette proposition de loi organique dès lundi. La loi devra ensuite être adoptée en termes similaires par l'Assemblée nationale, où LFI fera vraisemblablement de l'obstruction, puisque le FLNKS se dit opposé à cette ouverture ajustée. On peut penser toutefois qu'il y aurait une majorité pour l'adopter depuis que le Rassemblement national a fait savoir qu'il voterait une loi en faveur du dégel. Mais si le texte est amendé, il y aura une commission mixte paritaire, ce qui retardera d'autant plus les délais d'adoption. La loi devra ensuite être soumise au Conseil constitutionnel et tout cela devrait être fait avant le 31 mai puisque le décret de convocation des électeurs doit être publié au moins 4 semaines avant le scrutin qui a été fixé au 28 juin. Il faudra ensuite, après l'adoption de la loi organique, réunir une commission administrative spéciale pour l'inscription sur la liste électorale spéciale provinciale. C'est donc une véritable course contre la montre qui est engagée. Nous en parlerons demain midi en compagnie du député Nicolas Metzoff qui va quitter prochainement le territoire pour participer au débat à l'Assemblée nationale. Il sera demain midi l'invité d'un magazine Transparence qui débutera juste après notre édition de la mi-journée qui, jour férié oblige, vous sera présenté à partir de midi. Le magazine Transparence avec Nicolas Metzoff devrait donc débuter aux alentours de 12h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, la réponse à notre question d'hier. À l'unanimité, les auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent choqués que le Vanuatu ait invité une délégation du FLNKS et non le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à participer à une rencontre commerciale. Et notre question du jour, face à la recrudescence des actes de délinquance, êtes-vous favorable à l'armement des polices municipales ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Les membres de l'Association française des maires se sont retrouvés ce matin pour la première fois depuis le renouvellement des conseils municipaux au mois de mars dernier. Une assemblée renouvelée qui a permis d'aborder plusieurs sujets, Jean-François Baudin.
Les maires du Mont-d'Or, de Dembéa, Païta, Bouloupari, Lafoua, Farino et Moindou étaient présents. Celui de Koné est également venu. D'autres maires élus comme lui lors du dernier scrutin ont été invités mais n'ont pas pu se libérer. Il s'agit des maires de Koumac, de Thio, Saraméa et Pointe-Bout. Parmi les thèmes abordés, les appels à projets lancés par l'État dans le cadre du plan de reconstruction, les maires peuvent proposer des projets, mais comme l'explique le président de l'association Pascal Vittori, ils rencontrent un certain nombre de difficultés qu'ils ont pu partager avec le haut-commissaire présent ce matin.
Les communes disent qu'elles manquent de temps pour préparer les dossiers, qu'elles ont besoin de souplesse sur les thématiques retenues par l'État. Et aussi bien le secrétaire général du Haut-Commissariat que le Haut-Commissaire ont dit que l'État serait attentif, qu'il ferait preuve de souplesse, qu'il était à la disponibilité des communes pour les aider dans le montage des dossiers. Et donc ça a rassuré les maires qui étaient présents.
Lors de cette Assemblée générale, les maires de l'AFM ont également pu rencontrer les membres de la Chambre territoriale des comptes qui avaient été invités pour plusieurs raisons.
On n'avait jamais reçu la présidente de la Chambre territoriale des comptes pendant la mandature précédente. Puis aussi parce que la Chambre s'intéresse bien sûr aux comptes des communes et donc il est important que les maires et les nouveaux maires soient informés des contrôles de la Chambre territoriale des comptes et de la façon d'aborder ces contrôles. On avait également le procureur financier qui est venu nous parler de la responsabilité des maires et dans la gestion des finances publiques.
La prochaine Assemblée générale de l'Association française des maires aura lieu après les élections provinciales. Elle devra permettre de renouveler le bureau de l'association et donc de désigner son président.
Les commémorations de la victoire de 1945 en Nouvelle-Calédonie. Cet après-midi, à Dumbéa, la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance très solennelle devant le monument aux morts de l'hôtel de ville Charlotte Coulson.
Et c'est à 14h que la mairie et les autorités civiles et militaires ont célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 81 ans. Un conflit dans lequel on sous-estime souvent l'implication des territoires ultramarins, a rappelé la commissaire déléguée en province sud, Catherine Merckx.
C'est important de se rappeler que c'est pas qu'une histoire métropolitaine ou européenne. Il y a aussi tout le Pacifique, l'Asie qui a participé. Et en Nouvelle-Calédonie, ça a une importance encore plus particulière parce que justement, on a tendance à oublier ce rôle du Pacifique quand on est en métropole, alors qu'il a été également déterminant.
81 ans plus tard, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont toujours présents, que ce soit dans les musées, dans les mémoires ou même dans les noms de rues. Dumbéa garde ses traces, a expliqué Cynthia Jean, qui célébrait pour la première fois la date du 8 mai en tant que maire de Dumbéa, un moment important pour elle.
Évidemment, ce sont des moments extrêmement importants. Cette guerre où finalement tous les Calédoniens ont lutté ensemble, que ce soit sur le front en Afrique ou en Europe. Et puis ici en Nouvelle-Calédonie, une situation un peu particulière puisque nous avons accueilli ceux qui sont venus nous protéger, les Anzac, les forces australiennes et néo-zélandaises, et puis les Américains bien sûr qui ont laissé des traces jusque dans notre commune à Dumbéa. Le trou des nurses, c'est tout simplement parce qu'il y avait un hôpital américain pendant la guerre. Nurse, c'est le mot pour dire infirmière. Et donc, évidemment, c'était l'endroit où allaient se baigner les infirmières américaines. Donc voilà, ça nous est resté dans notre mémoire collective. Et c'est important de transmettre ces petites anecdotes aussi.
Une histoire commune appelle une mémoire commune. Ce sont les mots de Cynthia Jean lors de son discours. Elle a invité cette année, en plus des 4 classes de défense, 2 classes de CM2 à participer à la cérémonie. Des jeunes de 9 ans, impressionnés devant les discours et les défilés.
C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et on fait cette commémoration pour rendre hommage à tous les soldats qui se sont battus. C'est vraiment très impressionnant.
Il y avait assez de monde, l'armée de terre, de l'air et de la mer. Comme on dit souvent, c'est pour rendre hommage, pour transmettre.
C'est important pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France.
On est vraiment très honorés de participer à cette cérémonie. Ça honore aussi ceux qui sont rentrés blessés et marqués par cet événement. Et voilà.
Et ont également assisté à cette cérémonie à Dumbéa, le général Aouchin, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le sénateur Georges Naturel, Virginie Rufnak, vice-présidente du Congrès, et Naya Watéou, membre du gouvernement.
Les Mondoriens non plus n'ont pas manqué cette occasion de célébrer les personnes qui ont donné leur vie pour la France et la victoire des Alliés en 1945. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies à la place des accords de Boulari à 16h.
Et c'était aussi une première cérémonie du 8 mai en tant que maire du Mont-d'Or pour Nina Julier. Cette commémoration est pour elle toujours pleine de sens, même 81 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Je comprends le poids en fait des responsabilités, le devoir de mémoire aussi qui m'incombe et j'en suis très fière. Nous avons une présence de l'armée forte au Mont d'Or. À Ploum, nous avons le RIMAP qui est très présent. C'est une cérémonie organisée d'ailleurs par le RIMAP et c'est vraiment un honneur de pouvoir être présente et surtout rappeler à quel point la démocratie, la liberté, l'égalité sont fragiles. Et qu'il est nécessaire de les défendre tout le temps, partout, surtout dans des périodes où ces principes de base sont remis en cause.
Et comme chaque année, lors de cette commémoration, le discours du général de Gaulle élu, celui de la ministre des Armées également, et puis les représentants des autorités civiles et militaires déposent leurs gerbes devant le monument aux morts. À la fin de la cérémonie, tous vont saluer les porte-drapeaux. Les porte-drapeaux, ce sont des représentants d'associations qui portent aussi la mémoire de cette guerre, comme l'explique le président de l'Amicale des anciens combattants du Mont d'Or, François Viviette.
Disons une cérémonie, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Hexagone, pour avoir une belle cérémonie, il faut des porte-drapeaux. Tous les porte-drapeaux représentent une association patriotique. Donc sur le territoire, nous sommes 22 ou 24 associations patriotiques. Chaque association a leur porte-drapeau. Le drapeau de la Légion d'honneur, des médailles militaires, des croix de guerre valeurs militaires, de l'UNP, l'Union nationale parachutiste, l'Amicale du Mont d'Or. C'est pour reconnaître quand même nos anciens qu'ils ont combattus, pour leur dire que nous sommes toujours là et on est fiers d'eux justement parce que sans eux, on n'aurait pas ce drapeau tricolore.
Une cérémonie à laquelle ont aussi participé les élèves des classes défense du Mont d'Or.
À Païta, c'est à 7h30 ce matin qu'a eu lieu ce moment de recueillement au pied du monument aux morts de la commune. Comme traditionnellement, c'est Païta qui a ouvert le bal des cérémonies qui se dérouleront jusqu'à demain un peu partout sur le territoire. Cette commémoration était la première présidée par Antoine Romain en tant que nouveau maire de la commune et il s'est réjoui de la forte mobilisation ce matin.
À Païta, on a toujours été très attentif à ces cérémonies patriotiques. Et je dirais que je m'inscris complètement dans la continuité de ce qui a été fait par mes prédécesseurs. Nous maintiendrons évidemment ces cérémonies patriotiques. Moi, je remarque que ce matin, il y avait 3 classes défense qui prouvent que, effectivement, c'est un état d'esprit qui perdure en Nouvelle-Calédonie et j'en suis particulièrement heureux. On avait 15 porte-drapeaux, ce qui est exceptionnel pour des cérémonies de ce type-là, surtout aussitôt le matin. Et puis, c'est surtout pour le message qu'on vient de faire passer. Évidemment, il y a le devoir de mémoire dont on parle régulièrement lors de ces cérémonies. Je pense que ça va bien au-delà de ça. C'est aussi un état d'esprit, le respect de nos valeurs. Alors évidemment, les valeurs de la République, mais je pense aussi aux valeurs de l'engagement. Preuve que les jeunes qui sont là la connaissent et la comprennent. Et puis, des valeurs telles que l'honneur, qui sont un petit peu perdues et qui convient plus que de remettre à jour dans ces périodes tourmentées.
3 classes défense étaient en effet présentes ce matin. Celle du collège Louise Michel, une du collège Gabriel Païta et une du collège Sainte-Marie à Païta. Pour le reste des commémorations qui se dérouleront demain à Nouméa, à 8h, les drapeaux seront levés sur la place Bir Hakeim. La cérémonie sera présidée par le haut-commissaire Jacques Billan. 8h également à Moindou, Vaux et Koumac qui fêteront les 81 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À 9h, les dépôts de gerbes se feront à Bouraille, à Farino et à Lifou. À 10h, c'est la commune de Lafoy qui célébrera la victoire des Alliés devant le monument aux morts. Ce sera également la clôture de l'exercice interarmé coordonné par les forces armées en Nouvelle-Calédonie, Tagatatoa. Un événement festif est organisé à l'hippodrome de Lafoy à partir de 11h. La fin de la Seconde Guerre mondiale, également célébrée à Koné, c'est à 10h30. À Bouloupari, le dépôt de gerbes se fera à midi et une demi-heure plus tôt, une plaque sera dévoilée. Elle rend hommage au 80e anniversaire du retour des volontaires du Pacifique le 5 mai 1946. Demain, le 8 mai, est donc un jour férié. La grille info de Radio Rythme Bleu est donc modifiée. Comme tous les jours fériés, le journal du matin commencera à 7h au lieu de 6h30 et le journal de la mi-journée sera présenté à midi au lieu de 11h30. Info soir reste à 17h45. Notez qu'il n'y aura pas d'invité à 7h30 demain matin. En revanche, vous retrouverez l'émission Transparence juste après l'édition de la mi-journée. L'invité sera Nicolas Metzdorf, député de la première circonscription. Et à retrouver également le club politique avec Elisabeth Noir et ses invités. C'est à 16h45. Il est 18h, passé de 4 minutes. Première pause dans ce journal avant de parler relance économique sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Info Soir, Léana Colombo.
5 propositions urgentes pour éviter l'effondrement des entreprises et redonner du pouvoir d'achat. Les organisations patronales et les chambres consulaires ont présenté les mesures qu'elles souhaitent voir mises en œuvre pour les 2 ans qui viennent. C'était le thème ce midi des Jeudis de l'économie, Jean-François Bonnin.
2 ans, c'est le laps de temps pendant lesquels les entreprises vont avoir besoin de soutien, estiment les représentants du monde économique, car nombre d'entre elles sont dans une situation très compliquée, avec un début d'année 2026 particulièrement difficile, a expliqué Stéphane Iotto, le vice-président de la CCI.
On a interrogé il y a un mois et demi les chefs d'entreprise. 90% des chefs d'entreprise nous ont dit qu'ils attendaient un accord institutionnel. Aujourd'hui, l'argent ne circule plus parce que les gens n'ont pas confiance. L'argent, il est sous les matelas en attendant des jours meilleurs. Il est sous les matelas en anticipation de jours pires. On est dans un cercle infernal où il y a moins d'activité, il y a moins d'emplois, il y a moins de rentrées fiscales. Aujourd'hui, l'activité, on est à moins 20% par rapport au niveau avant crise, moins 12 000 emplois, c'est-à-dire là aussi quasiment 20% d'emplois qui ont disparu, moins de revenus. Le budget moyen des ménages, il est passé de 1 750 000 à 1 500 000. C'est l'IOM qui nous l'apprend. On est à moins 18% de consommation. On est à moins 44 milliards de recettes publiques. Ça devient compliqué.
La situation est donc compliquée. C'est pour cela que le monde économique fait ses 5 propositions. Les 2 premières concernent les cotisations au RUAM. Il s'agit de différer le paiement des cotisations patronales et des travailleurs indépendants pendant 3 ans et demi et d'exonérer les cotisations salariales RUAM de façon partielle et dégressive. Bertrand Courte est le président du MEDEF.
Ce qui pèse beaucoup sur les entreprises, on le sait, c'est le coût du travail en Calédonie. Chaque échéance trimestrielle où l'entreprise doit satisfaire ses obligations sociales et payer, entre autres, sa CAFAT. Aujourd'hui, ça ne passe plus, hein, soyons très clairs. Donc aujourd'hui, il est indispensable qu'on redonne une bouffée d'oxygène aux entreprises d'un point de vue financier. C'est pour ça qu'on propose une suspension des charges patronales RUAM, pas une exonération, une suspension pendant 2 ans pour pouvoir redonner de l'oxygène aux entreprises. Ensuite, on réétale ce différé en fait sur une longue période de minimum 5 ans pour que les entreprises puissent absorber ça le moment venu. Et on veut redonner du pouvoir d'achat aux salariés, pour le coup en exonérant la partie cotisation salariale RUAM qu'on réintègre directement dans le salaire net du salarié.
Et la 3e proposition du monde économique, c'est de supprimer le paiement de la patente pendant 2 ans.
La patente, c'est un impôt qui est dû en début d'année, quelque part qui a une certaine injustice, avec un mode de calcul assez particulier, presque opaque, et c'est surtout un impôt qui est dû avant qu'il y ait le moindre franc de chiffre d'affaires, sans tenir compte du niveau d'activité d'une entreprise. Donc cet impôt-là, à notre sens, il faut absolument en dispenser les entreprises sur les 2 prochaines échéances.
Enfin, les acteurs du monde économique proposent de prolonger l'allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi jusqu'à mi-2028 et enfin de proroger le dispositif et la prise en charge des commissions de garantie SOGEFOM. Ces propositions ont été présentées au groupe politique du Congrès et aux membres du gouvernement en charge du secteur, car les acteurs du monde économique insistent pour qu'elles soient adoptées par le Congrès avant la fin de la mandature, c'est-à-dire avant fin juin, car il y a vraiment urgence, a souligné le président de la CPME, Christophe Dautieux.
De toute façon, aujourd'hui, ce qui fera la relance, c'est le monde économique, c'est les entreprises, hein, c'est le privé. Donc il est important de sauver un maximum d'entreprises. Et nos mesures, on les propose aujourd'hui, mais c'est limite déjà trop tard. On ne va pas sauver l'ensemble des entreprises, mais si on peut en sauver un maximum, ben, ça sera déjà gagné.
Si ces mesures ne sont pas adoptées rapidement, le monde économique craint que le calendrier ne soit ensuite pas favorable avec la campagne électorale puis les élections provinciales en Calédonie et les vacances politiques de l'été en métropole. Après, il sera trop tard pour bon nombre d'entreprises, nous ont dit les invités des Jeudis de l'économie.
Une émission que vous pourrez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. En bref, une histoire qui se termine bien pour un véliplanchiste en difficulté au sud de la Côte Blanche à Nouméa cet après-midi. Aux alentours de 13h50, une personne pratiquant la planche à voile a été signalée comme étant en détresse. Le COSENSE a immédiatement déployé un message relais, dépêché un bateau semi-rigide de la SNSM et demandé le soutien d'un hélicoptère de la Marine nationale qui était en exercice à proximité. L'individu a finalement réussi à repartir tout seul et l'alerte s'est achevée à 15h30. De l'animation et beaucoup de jeunes aujourd'hui à la base navale de Nouméa dans le cadre de ce que l'on appelle le rallye citoyen, Lionel Sabot.
Plusieurs classes défense venues de toute la Calédonie étaient présentes, point de Chalex, pour découvrir les métiers de la Marine nationale qui fête cette année ses 400 ans, mais aussi pour visiter le patrouilleur outre-mer Auguste Bénébigue. Charles Porcheron est professeur d'histoire-géographie et responsable de la classe défense du collège de Magenta.
Le rallye cap citoyen, c'est faire découvrir aux élèves différents espaces de la base navale et aussi différentes dates qui concernent la marine, notamment en Nouvelle-Calédonie. C'est une classe qui est très, très curieuse. Ouais. Les élèves aiment poser des questions, même aux différents intervenants que l'on voit, que ce soit au collège ou en dehors du collège. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je peux constater qu'effectivement, ils posent beaucoup de questions.
Oui. Et c'est à bord justement de l'Auguste Bénébigue que nous avons rencontré Aniveille et Témoé, élèves de la classe de défense de Magenta, de jeunes ravis de pouvoir découvrir des lieux qui ne s'ouvrent au public que très rarement et de côtoyer à quelques heures les marins de la base navale.
On est ici pour visiter la base navale, les bateaux, les monuments. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de nouvelles choses. Les différents navires, les différents grades aussi, qu'on a vu un peu au préalable avec notre professeur.
C'est vraiment super, ça me permet d'un peu découvrir cet univers de la marine qui m'intéresse énormément. J'ai comme ambition d'en faire projet de carrière. Donc forcément, j'essaie de poser des questions. Ils sont très gentils, ils répondent à nos questions. Impressionnés, encore plus motivés, encore plus intéressés, oui.
Et si les élèves sont heureux de découvrir la base navale de la Pointe Chalex, qui fête ses 75 ans cette année, leurs hôtes de la Marine nationale sont également ravis de permettre à ces jeunes de découvrir leur environnement de travail. L'enseigne de vaisseau Théo Hébert est l'officier communication de la base navale.
C'est un réel plaisir de pouvoir leur faire découvrir les différents métiers qu'il existe au sein de la Marine nationale et d'autant plus les accueillir sur la base navale où aujourd'hui ils ont cette chance particulière de pouvoir participer à différents ateliers pour leur présenter justement ce qu'il est possible en termes de spécialité. Et puis ces marins justement qui se mettent à leur disposition pour leur présenter les différentialités justement et les capacités de la Marine nationale et au sein de la base navale de Nouméa. Et en plus de ça, cette chance d'avoir ce bâtiment qui est acquis aujourd'hui, le patrouilleur d'outre-mer Auguste Bénébigue, pour leur faire vraiment une visite immersive avec les marins qui sont actuellement sur le bâtiment.
Et j'ajoute que plusieurs autres rendez-vous dans le cadre de ces rallyes citoyens seront organisés cette année. Le prochain se déroulera le 4 juin.
Demain, nous serons la journée internationale de la Croix-Rouge. À cette occasion, une matinée porte ouverte était organisée au sein du centre d'accueil de jour Édouard Trubert à Magenta. Objectif de ces portes ouvertes, faire connaître au grand public ce dispositif de centre de jour et mieux comprendre son fonctionnement. Sylvie Dalsen est aidante au sein de l'établissement où est pris en charge son père, atteint de la maladie d'Alzheimer.
Être présente à la journée porte ouverte, pour moi, en tant qu'aidante, c'est appréciable d'observer comment sont occupés nos proches et de voir qu'ils se plaisent, ça les occupe. Ça leur permet un peu de ne pas se sentir seuls, en fait, et être bien entouré d'une équipe professionnelle qui est vraiment formidable, de prendre le temps de les occuper, en fait. S'occuper d'un proche qui est atteint de la pathologie Alzheimer n'est pas facile du tout. Ça demande beaucoup de patience, de temps et d'observation aussi pour pouvoir mieux les comprendre, en fait, parce qu'ils ont des besoins exprimés qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Il suffit qu'on leur dise deux consignes à la fois, par exemple, et bien ils n'y arrivent pas, ils paniquent des fois. Il faut que ce soit un professionnel qui soit à leur côté.
Pour les proches souvent mobilisés dans l'accompagnement quotidien, cette structure est une aide précieuse, mais elle est également pour les malades. Lucien Franciso a été détecté comme atteint de la maladie d'Alzheimer en 2018, à l'âge de 83 ans.
Ça va, je ne souffre pas vraiment. Je sais que ça vient, mais je ne sens pas vraiment que ça gêne. Je peux supporter, en quelque sorte. J'ai toujours le cerveau qui travaille, donc ça va, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça va pour le moment, je tiens bon.
Pour tout renseignement sur le dispositif d'accueil de jour ou sur la maladie d'Alzheimer, vous pouvez vous rendre au centre Édouard Trubert au 1 rue Henri Dubuisson à Magenta ou contacter le 27 82 48 27 82 48. Il est 18h14, seconde pause avant de parler sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le sport pour terminer ce journal avec d'abord du rugby. C'est ce soir la finale du championnat de rugby à 10. Une nouvelle compétition mise en place par la Ligue de rugby à laquelle 4 clubs ont pris part. Le CREC, le RC Mondor, l'Olympique et l'URC d'Umbéa. Après une première phase de championnat durant laquelle toutes les équipes se sont affrontées, c'est la finale ce soir. Elle opposera l'URC d'Umbéa au RC Mondor. Coup d'envoi de la rencontre 19h30 au stade Simutoga de Rivière-Salée. Et puis le jeune Calédonien Raphaël Gilles continue de performer en karting. Il participait ce week-end à une compétition, la Golden Power 2, au nord de Melbourne avec 37 autres pilotes. En début de week-end, il a signé le meilleur temps de sa série lors des essais libres avant de décrocher le deuxième temps des qualifications. Malheureusement, il a joué ensuite de malchance. La course se déroule en plusieurs manches et lors de la première manche, son karting a calé. La deuxième manche a été annulée en raison des orages. Et lors de la troisième manche, Raphaël Gilles a été percuté par un autre concurrent et finit sa course dans l'herbe. Il effectuera une très belle remontée pour se classer quatrième, insuffisant hélas pour participer à la finale de cette compétition. Il est 18h passé de 16 minutes et on passe tout de suite à la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et voyons toute la météo avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Cette nuit, le ciel est bien étoilé dans l'ensemble. Quelques bancs de nuages bas circulent encore sur l'extrême nord où une averse isolée reste possible en soirée. Le vent d'est souffle autour de 15 nœuds sur la pointe nord et de 10 à 15 nœuds sur la façade est ainsi qu'au Loyauté. Et sur l'ouest, il devient souvent variable faible, localement proche de 10 nœuds dans l'axe des vallées. Les températures minimales perdent 1 à 2 degrés et varient de 18 à 24 degrés.